11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. La seule super lune qu'elle va observer ce soir, c'est peut-être celle de son rendez-vous Tinder quand il va lui proposer un dernier verre. La lumière de vos nuits, Léa Londo.
Je ne suis pas sur Tinder. Bonjour.
Il ne veut pas du permis de conduire gratuit, il veut juste la voiture, même sans GPS. Il ne perd pas le nord. Mickaël, qui regarde.
Bonjour, bonjour.
En cette journée internationale de la baleine, il a voulu respecter le thème en allant à la piscine. Il espère qu'après quelques longueurs, on l'appellera désormais le dauphin. Jérémy Lorca.
C'est sympa, merci beaucoup. Bonjour.
Quand il se met en couple, il se comporte comme un gilet jaune. C'est pas parce qu'on lui dit d'arrêter qu'il ne sera pas de sortie tous les samedis. Ben H est avec
évidemment,
nous.
Évidemment, bonjour à tous.
Et celle qui n'a pas besoin de participer à l'émission Le Grand Oral, il suffit qu'elle soit au téléphone avec une copine pour l'entendre parler pendant plus de 2 heures, l'éloquente Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Mickaël Quiroga nous racontera son week-end au musée. À 11h30, nous recevrons Virginie Lemoine pour la pièce Comment 14 de Dany Laurent, actuellement au théâtre de La Bruyère à Paris. Jérémy Lorca reviendra sur la carrière de Virginie Lemoine. Et à partir de 11h50, le philosophe Raphaël Enthoven sera notre invité pour son livre Nouvelle morale provisoire qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Ben H évoquera son parcours et Léa Londo lui a préparé une interview. C'est bon pour la morale.
11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors, depuis quelques jours, miracle, il y a le beau temps qui s'est installé sur la France métropolitaine avec des températures très douces pour le mois de février. Est-ce que vous en profitez, Jérémy ?
Ah bah oui, moi je me suis fait bronzer sur mon balcon et j'ai fait connaissance avec ma nouvelle voisine qui veut porter plainte contre moi pour attentat à la pudeur. Elle dit que me voir en caleçon sur mon balcon, ça la gêne visuellement et que c'est puni par la loi. Non mais on rêve, il y a des gens qui paieraient pour me voir nu.
Qui
a personne en fait.
Ben H ?
Oui, bah oui, c'est très agréable cette douceur pour un mois de février, mais doit-on se réjouir de cette conséquence du réchauffement climatique? C'est un drame écologique et humain, les amis. Écologique parce que c'est bientôt la fin du monde et humain parce que visiblement des personnes doivent supporter Jérémy Lorca à poil.
Léa ?
Ouais, pour ma part, moi je suis partie à Marrakech le week-end dernier et comme vous pouvez le voir, j'ai le teint hâlé.
Ouais, dommage que ce soit pas aller-retour.
Non, salaud.
Merci, ça fait plaisir. Moi qui pensais que je vous avais manqué.
Qu'est-ce que vous avez été faire à Marrakech, Léa ?
Je suis allée travailler.
Faire quoi ?
J'ai tourné. J'ai fait un film pour les 10 ans de mariage d'un couple. Et j'ai une anecdote à vous raconter incroyable.
Quoi ?
Je suis revenue de Marrakech dimanche soir. J'étais dans l'avion à côté d'une jeune fille. On s'est mise à parler, de deux jeunes filles d'ailleurs. Et il y en a une qui, à un moment donné, je parle. Elle me dit « Excuse-moi, mais tu n'es pas chroniqueuse chez Anne Romanoff ?» Je dis « Ouais ». Elle me dit « Bah, je t'ai reconnue à ta voix. Je suis sortie avec un des chroniqueurs de l'émission. »
Mais non !
Ah bon ?
Que j'ai rencontré sur Tinder. Je lui ai dit « Ça ne peut être que Ben H. » Et elle me dit « Oui » Est-ce que vous imaginez la probabilité pour que dans un avion complet, je me retrouve à côté d'une date Tinder de
Ben
H.
Mais Ben H, il a daté la France entière.
Mais c'est ça. Je lui dis, mais c'était il y a longtemps. Elle me dit « Non, il y a à peine 10 jours.
» Aïe, aïe, aïe.
Donc je te passe le bonjour de Raphaël.
De Raphaël, ouais.
Et on embrasse Fanny qui était sa copine juste à côté, qui revenait du Maroc aussi.
C'est tellement gênant comme séquence. Mais c'est horrible. Néanmoins, c'est une jeune fille qui s'est mise à écouter l'émission un peu grâce à moi.
Voilà comment ils gagnent les auditeurs.
Et elle aime beaucoup notre émission et elle vous aime beaucoup, Anne Romanoff.
Voilà.
Mais c'est incroyable le succès que tu as quand même.
Non, mais c'est fou quand même.
C'est pour ça que notre audience augmente en fait. C'est grâce à toutes les filles que tu as.
Sachez que je bosse très dur pour l'émission.
Ça s'appelle le bouche à oreille.
C'est incroyable.
Non, mais c'est fou.
C'est incroyable.
C'est fou cette probabilité quand même.
Ah, dis donc.
C'est dingue, hein. Bon voilà. Non, mais ce qui était drôle, c'est que
chaud.
Je lui ai dit pour rire en disant non, mais ça ne peut être que Ben H. Elle me dit effectivement. C'est dingue.
C'est quoi ton secret, Ben?
Ouais, je lui ai demandé.
Bon. C'est incroyable. Il prend que des désespérés. Donc
c'est pas vrai.
Elles sont toujours très jolies, les filles
Ben
H. Non,
non, non, pas du tout. C'est parce qu'il a un côté oiseau tombé du nid fragile. Et les filles se disent, il est sensible.
Ça, c'est votre théorie, ça, depuis quelques temps.
Si, c'est vrai, mais je pense.
Non, alors je tiens à préciser quand même qu'elle était charmante, hyper agréable et intelligente.
Non, mais oui, il sort toujours avec des filles très bien, Ben.
Ouais.
Mais il a un succès
incroyable.
Alors,
est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu l'as pas rappelé maintenant?
Alors, et j'espère que ça... C'est elle qui m'a pas rappelé. C'est elle qui m'a pas rappelé. Et voilà.
Mais je vois pas pourquoi elle serait pas désespérée parce qu'elle est belle. On peut être belle et désespérée. Regarde Léa.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Quand on voit Ben, on se dit pas c'est un playboy.
Non mais ouais. Ça va. On est sur Léa maintenant.
Mais non mais moi ça m'étonne que Léa trouve pas de mec. T'as tout essayé.
Non mais Léa par contre c'est un cas d'école. Ouais. Franchement.
Mais elle a tout
non, mais
essayé.
Elle est belle, elle est intelligente, elle est talentueuse.
Mais qu'est-ce
j'arrive
qu'elle
pas
est chiante.
Un petit peu chiante, mais normal. Mais c'est vrai que j'arrive pas à comprendre.
Moi.
Mais Léa elle me rassure. Il
y a forcément un vice de forme. On n'est pas au courant.
Ah ouais.
C'est
forcé. Mais après, il y a des gens plus ou moins difficiles.
Oui,
aussi,
voilà, c'est ça. Le vice, il est là, c'est vrai.
Est-ce que tu as essayé de proposer de l'argent?
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
À Bordeaux, Alain Juppé a démissionné de son poste de maire. À l'annonce de cette nouvelle, de nombreux Bordelais ont fondu en larmes. Alors qu'à Paris, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle ne démissionnerait pas de son poste de maire. À l'annonce de cette nouvelle, de nombreux Parisiens ont fondu en larmes.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la baleine. C'est pas sympa, on ne dit pas baleine, on dit Léa n'a pas encore perdu ses kilos des fêtes.
C'est vache. C'est vrai, mais c'est vache.
Aujourd'hui, la lune sera plus grosse d'environ 7%. Et je ne parle pas de ma lune, qui elle est plus grosse de 30% vu les 3 pizzas que j'ai mangées ce week-end.
Ah, tu vois, vengeance.
Ce week-end, à Paris, une sexagénaire a été retrouvée décapitée. Son fils s'est rendu à la police.
Son fils s'est rendu, mais on est sûr que c'est lui ?
Oui, oui, il a juré sur la tête de sa mère.
Oh, oh non !
Aujourd'hui débute la Fashion Week à Milan. Michael, tu veux pas aller faire un stage et juste une fois, et juste une fois pour faire taire tout le monde, tu reviens ?
Amen.
Europe 1.
Allez, en attendant que Michael Quiroga ait la Fashion Week de Milan, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Michael Quiroga, Léa Landau, Jérémy Lorca et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine dans l'un des 56 clubs Bellambra en France en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Michael Quiroga, Léa Benachou, Jérémy Lorca qui a mis un pull absolument
incroyable.
Rayé. Incroyablement rayé. C'est quoi ce pull encore?
Ouais. Bah écoute, c'est une très jolie marque. Voilà, je suis très heureux de le porter.
Très jolie marque. Tu t'habilles dans le noir ou quoi?
Allez, c'est le moment de notre jeu.
Europe 1. Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui fêteront leur anniversaire avant la fin du mois. Cette semaine, attention, tentez de gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 56 destinations en France avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Les plus beaux endroits de France, un personnel qualifié, professionnel, des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée, des enfants heureux pour les enfants de 3 mois à 17 ans, des animations, du sport, des activités pour tous. Bellambra Club, créateur d'émotions. Un séjour en demi-pension d'une valeur de 2 000 euros. Le reste du temps, vous mangez pas le soir. En fait.
Là, j'ai mis une question, moi, parce que c'est un séjour.
Plus d'infos sur www.
Pardon. Parce que t'as pas tout dit, là.
Non.
Pardon.
Ça fait un mélou quand c'est dit bon.
Un séjour en demi-pension d'une valeur de 2 000 euros. Plus d'infos sur www.bellambra.fr. Voilà. Quelle est la question?
Ma question, c'est je vois que c'est un séjour d'une semaine pour 4 personnes. Est-ce que ça marcherait pour une personne 4 semaines?
Je crois pas.
Non, dommage.
Non, je crois pas.
Dommage.
On ne le gagnera pas.
On joue d'abord avec Stéphanie. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour.
Alors Stéphanie, vous êtes factrice, c'est-à-dire vous travaillez à la poste, c'est ça? Et dans le 35,
exactement.
À Tréfondel, en Bretagne, donc.
Voilà.
Et vous avez votre compagnon est facteur aussi.
Bah ouais.
Et vous
pourquoi
vous
ouais.
rencontrez ton travail.
Et vous,
c'est souvent en temps de travail qu'on se rencontre.
Ah oui. Et vous écoutez l'émission sur votre vélo en livrant le courrier.
Ouais, c'est pas bien.
Hein?
Pourquoi c'est pas bien?
Parce que j'ai les écouteurs.
Ah oui, c'est dangereux.
C'est dangereux. Ouais.
Bah oui, c'est dangereux.
Et c'est pour
non,
ça.
Je suis sur le trottoir.
Et c'est pour
le trottoir.
Ah, vous roulez sur le trottoir, ça c'est dangereux.
Non, mais je m'arrête aux boîtes aux lettres, donc je ne suis pas hyper dangereuse.
Ah oui. Ouais.
Et c'est parce qu'ils écoutent l'émission que les facteurs, ils montent jamais les recommandés.
Ah oui. Hein, il y en a marre de ce truc.
C'est un peu du harcèlement, à chaque fois vous le dites.
C'est vrai.
Mais c'est vrai.
Non, mais vous vous
montrez. Non, c'est pas vrai.
Mais si, parfois, on a l'appartement et il marque client absent.
Ouais, c'est vrai.
Et on attend. Et nous, on a bloqué toute la matinée pour attendre.
Et on est là, et après, il faut aller à la poste, et la poste, elle est fermée. Et après, ils vous donnent le colis, et il est très lourd, parce qu'on a commandé.
Et ils disent, vous n'avez pas votre carte d'identité, c'est pas possible.
Ouais. Et pour toutes ces raisons, au revoir, madame. Allez, suivant.
Ou alors, il y a mieux, c'est que tu y vas, et ils te disent, non, il est pas là, il revient demain, le colis.
Oui. Moi, une fois, ils m'ont dit le colis est à la poche, j'arrive, et ils m'ont dit ben non, il est reparti en Chine.
Mais ça, c'est parce que ça faisait 15 jours.
Oui, bah j'ai pas que ça à faire d'aller à la poste, moi.
C'est votre boulot, pas le sien. Hein.
Non, mais moi, il y a un nouveau truc qui est très très bien maintenant. Dans ma poste, il y a des murs avec des petites boîtes et un code. Et si tu as le papier, tu tapes le code, la boîte elle s'ouvre et ton colis sort.
Oh, c'est super le 16e.
C'est moderne chez vous.
Non, c'est un nouveau truc ça.
Ça, c'est un truc tout nouveau qui s'appelle ça s'appelle un casier en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Vous l'avez ça, Stéphanie, en Bretagne ça?
Oui, on a ça, ouais. Mais on a moins de facteurs du coup quand on a des casiers, donc c'est pas non plus.
Et vous avez internet là-bas?
Ah bah ouais.
Et Stéphanie, mais vous êtes sur votre vélo, mais quand il pleut, qu'il neige, comment vous faites là alors?
Eh ben, je suis mouillée. C'est incroyable.
Bon, à la limite, ça va, parce qu'en Bretagne, il pleut pas tant que ça. Donc,
j'aimerais qu'on se mette
pas. Non, mais attends, parce que tu rigoles, mais faire du vélo sous la pluie, ça doit pas être...
Attendez, Anne Roumanoff découvre la vie. Chut.
Bah, elle met un sirène.
Non, mais je croyais que vous avez le droit... Vous avez pas des petites mobilettes avec un petit...
Un petit
capuche.
Avec un cahouette.
Ou ne serait-ce que du petit personnel avec un parapluie qui court à côté.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est
voilà, la base.
Alors, vous dites que Stéphanie, parfois, les personnes mettent du scotch sur leur boîte aux lettres pour que vous apportiez directement le courrier, c'est ça, dans les mains?
Ouais. Ah bon, c'est parce qu'ils s'ennuient, alors ils veulent me voir.
C'est les vieilles personnes qui font
Est-ce qu'elles vous offrent à boire? Elles vous offrent un café, du vin, un apéro?
Ah bah oui, elles sont sympas. Oui, des fois elles sont sympas, oui. Mais
des chocolats? Des chocolats?
Ouais, j'ai eu plein de chocolats à Noël.
Ah, c'est sympa.
Tu vois, Jérémy, c'est peut-être une solution pour toi, ça. Tu mets
c'est
du scotch sur ta boîte aux lettres. Les mecs, ils vont monter.
Vous donnez du chocolat à votre facteur, après ils montent vous recommander.
Voilà, Jérémy.
Ouais, mais c'est pas vrai parce qu'à Paris, c'est pas du
mais
tout
oui,
toujours
c'est
les mêmes.
Ouais. C'est jamais les mêmes, nous.
Ah, bah oui, nous, c'est la province. Hein.
Ouais. Bon, Stéphanie, vous jouez avec qui?
Léa.
Dommage.
Ce sont des personnalités nées au mois de février. Attention, alors, vous êtes prêtes?
Oh là.
Vous êtes prêtes?
Oui, oui.
Top chrono.
La chanteuse qui chantait en rouge et noir.
Ah, je sais pas.
Celui qui est parti dans l'espace. Pendant 6 mois.
Bon, mais oui.
Le fils d'un ce qui est basketteur, qui est le fils d'un tennisman très connu qui s'appelle Yannick. Son fils.
Noir.
Oui, son prénom.
Jordan Noir. Ah, je ne sais pas.
Ça, c'est une mannequin une mannequin très célèbre des années 80, américaine, avec une mouche au-dessus de la bouche, une brune magnifique.
Oh là là.
Bah alors.
Son frère s'appelle.
Oui, bah je sais plus. J'arrive toujours à répondre et là je sais plus.
Celle qui jouait dans les valseuses.
Oh là là.
Oh là là.
On appelle ça une Roumanoff dans le jargon.
J'avais dit dommage.
C'est pas de
vous
ma
avez
faute.
Perdu vos moyens.
C'était Joachim.
Oui, mais c'est trop tard.
Trop tard.
Bah, je comprends, mais c'était Thomas Pesquet, Jeanne Masse, Joachim Noah et Cindy Crawford.
Voilà. Bah oui, mais j'étais nulle.
C'est bien fait, fallait monter le courrier.
C'est le karma, ça.
Non, mais c'est un record, mais dans le mauvais sens. On mais a fait zéro.
Stéphanie, c'est plus facile, vous voyez, de jouer chez soi, en fait, quand on écoute sur votre vélo, c'est plus facile.
Mais oui.
Bon, alors on joue maintenant avec Thomas, quand même. Peut-être Thomas.
Donc, Thomas va relever la situation.
Thomas, vous rendez compte? Ah bah, il est de bonne humeur.
Bravo, Thomas.
Thomas, il a 42 ans, il est en reconversion professionnelle, il habite à Villeurbanne, c'est ça?
À côté de Lyon, oui, tout à fait.
Et voudriez aider des personnes en situation de handicap maintenant, c'est ça?
Tout à fait. Étant moi-même Asperger, donc je vais faire de mes anciennes faiblesses et difficultés une force et un moteur d'information et éviter aux autres maintenant de repasser par les mêmes souffrances, mêmes difficultés. Ça s'appelle la paire aidante et c'est ce vers quoi je tends.
Bah, c'est un très beau projet, Thomas.
Bravo.
Et vous faisiez quoi avant?
Avant, c'était déjà il y a quelques années, j'ai été réceptionniste d'hôtel et encore avant, je vendais des placements financiers dans une grande compagnie nationale française d'assurance.
D'accord. Et vous êtes célibataire et vous avez pris un abonnement illimité à Mythique?
Non.
Illimité.
Illimité, le mec.
C'est vrai?
Non. attendez. J'ai pris un abonnement pour 6 mois pour faire un essai.
Ouais.
Et je pensais qu'en prenant la formule à 15 ou 17 euros par mois, ça me laissait le différent choix des options, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, il y a toujours des trucs en plus pour sélectionner, pas se faire sélectionner. Donc je vais rester sur la formule de base et on verra bien ce que ça donnera.
Et ouais. En 6 mois, rien.
Non, ça fait pas 6 mois, je m'inscris il y a 10 jours.
Le bonheur n'est plus très loin.
Et alors, il y a eu des petits hameçonnages en 10 jours ou pas?
Il faut déjà que j'arrive à comprendre comment le site fonctionne, parce qu'entre les flashs... parce qu'entre les flashs, les boosts, les éclairs, pas compatible, donc voilà.
C'est du marketing, hein. Faut mettre vos plus belles photos, le meilleur profil, faut se vendre. Hein.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que... Si j'ai la chance de partir une semaine chez Belle en bras,
vous pouvez faire des belles photos.
Et je pourrais faire des belles photos.
Ah bah oui, c'est ça.
Bah, si vous faites mieux que zéro réponse, oui, ça va le faire.
Vous jouez avec qui, Thomas?
Eh bien, je serais ravi de jouer avec vous, Anne.
Oh, il va y avoir match nul, c'est chaud.
C'est
incroyable. Premier match nul à 0-0 de l'histoire.
Non, mais c'est pas évident. Vous êtes prêts?
Allez,
ouais. Y va, attention, top chrono. Une très jolie chanteuse qui chantait dans Notre-Dame de Paris. Elle fait des livres de régime, elle est très belle. Très bien. C'est un animateur qui était sur Europe 1 avant, maintenant il est sur RTL. Il anime On n'est pas couché le samedi soir.
Ruquier.
Oui. C'est une cuisinière célèbre qui est une amie de Laetitia Hallyday. Il fait partie du groupe Téléphone. Il faisait partie du groupe Téléphone.
Jean-Louis Aubert.
Non, l'autre.
The Voice.
The Voice, il était jury dans The Voice.
Ah, Bertignac.
Oui. Et c'est une grande chanteuse américaine qui tortille les fesses. Oui, voilà.
Oh là là, il l'a trouvé.
Et c'est
ça.
En duo avec Chevalier, c'est un duo comique. Lui. Très bien. C'est un joueur de tennis.
Wow. Ouais. Wow.
Alors là, il n'y a pas photo. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses.
5-0.
Ouais.
On a...
Bravo.
C'était Hélène Darroze, la cuisinière que vous n'avez pas deviné, mais c'est très bien, Thomas.
Il y a un lien de famille avec Laetitia Hallyday. Oui.
Alors, non, je crois pas qu'il y a un lien de famille, ils sont juste amis.
On a adoré la chanteuse américaine qui tortille les fesses.
Rihanna.
C'est vrai, parce qu'il y en a tellement.
Alors, Thomas, vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 56 destinations en France avec Belle en bras, numéro 1 des clubs de vacances en France. Thomas, on veut entendre un cri de joie.
Ouais.
C'est un des meilleurs qu'on ait eu. Ouais.
Et vous allez jouer avec qui, Thomas? Jouer, je veux dire.
Allez, on commence.
Tu vas toucher à quelle heure?
Allez partir avec qui, Thomas, chez Belle en bras?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que j'ai pas envie de partir avec n'importe qui non plus, donc je vais voir.
Bon bah bravo, Thomas.
Je vous embrasse et je vous dis une belle journée à tous et continuez comme ça.
Merci.
Stéphanie, vous rejouez avec nous d'ici un mois?
Oui.
Allez, on vous embrasse tous les deux, continuez à nous écouter.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Jérémy Lorca, Ben H et Mickaël Quiroga qui nous racontera son week-end au musée.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Jérémy Lorca. Alors vous avez vu qu'en ce moment il y a beaucoup de concours à la télévision, des concours de chant avec The Voice, concours de cuisine avec Top Chef. Ce soir France 2 diffusera une nouvelle émission intitulée Le Grand Oral, un concours d'éloquence. Est-ce que vous avez déjà participé à des concours? C'était dans quel domaine, Mickaël?
Moi c'est grâce à un concours que je suis arrivé dans votre émission, Anne.
Ah bon, c'était quoi comme concours?
Le seul concours que je pouvais gagner, un concours de circonstances.
Bravo.
Il est brillant.
Jérémy, un concours?
Oui, moi je vous l'ai jamais dit, mais c'est une vraie histoire. J'ai participé à Popstar, l'émission télé. Popstar 2, j'ai fait 3 tours. J'avais 17 ans et pour pas qu'on me reconnaisse, je m'étais laissé pousser la barbe. J'avais mis des claquettes, un jean troué, un bandana. Il y avait même un reportage télé. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que quelqu'un d'aussi rock que vous fait chez Popstar? Et j'avais répondu, je vous jure c'est vrai, je tenais bien le personnage, non mais il faut niquer le système, en mode rebelle. Et finalement, sur un malentendu, j'ai fait 3 tours. La première fois, on m'avait demandé de chanter une chanson de Patrick Bruel, je me souviens.
C'était quoi comme chanson?
Oh là là.
Allez.
Tu peux mettre de la réverb un peu. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. J'avais fait ça.
Ah bah et ils t'ont dit d'accord.
Ah bah non, c'était Catherine. Enfin, la peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit, casser la voix. Voilà.
Oh, pas mal, non ? Mais c'est pas si pire.
Finalement.
Vas-y, dis ta phrase, Mickaël.
Non, c'est pour dire, finalement, il a paniqué que le système, les oreilles aussi.
Trois tours.
Ouais, bah, dans un peu dans le même genre que Jérémy. Il y a quelques années, j'ai fait le concours pour devenir le bachelor de M6. il cherchait des hommes séduisants qui ont fait carrière.
Bah, alors, vous n'avez pas fait carrière et que vous n'êtes pas particulièrement séduisant.
Et bah voilà, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit aussi.
Mickaël, qui regarde, vous avez passé le week-end dans des musées ?
Ben oui, je vois pas ce qui vous étonne. Hein. J'aime la culture et pas seulement de certaines plantes, hein, vous savez. Comme disait Pagnol, faut pas se fier aux apparences, hein, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursin. Et alors, fidèle à la citation de Picasso qui disait que l'art lave votre âme de la poussière du quotidien, j'ai profité d'une invitation à une exposition d'art contemporain. Ce qui, pour moi, est une découverte. Hein. L'art contemporain, quand on n'est pas familier, c'est un peu comme un test pour la vue. Pour ceux qui aiment les espèces en voie de disparition aussi, il y a le musée du fumeur. Alors très politiquement incorrect, hein, avec des gravures, des vieux cigares, des vieilles pipes. Et puis, ils ont le sens de la propos, ils sont installés à côté du cimetière du Père Lachaise. Non, c'est bien foutu quand même. D'un côté, il y a le musée où le fumeur peut aller s'asseoir. Et de l'autre côté, il y a le cimetière où le fumeur ira s'allonger. Alors, je suis allé aussi faire un petit tour au musée de la contrefaçon. C'est un musée qui existe vraiment, hein, qui a été créé par l'Union des fabricants. Dans un but pédagogique, il y a des parfums Christian Dior. Je vous promets, il y a des sacs Coco Chenil. Comme contrefaçon, il y avait aussi un disque d'Edith Pigeon. Le titre, c'était Emporté par la poule.
Ah, Emporté par la poule.
Qui nous traîne, nous entraîne.
Je suis même tombé sur une contrefaçon faite dans les années 70, en plein communisme, en Union soviétique. C'est une contrefaçon d'un grand film du cinéma français.
Ah bon, c'était quoi ?
Ça s'appelle Les Bronzés font du Trotsky. Le musée de la contrefaçon, c'était sympa, mais je sais pas si j'y retournerai, hein, parce qu'ils m'ont rendu la monnaie en billet de 30 euros. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire. Et puis, alors, cela dit, je vous cache pas qu'avec tous ces musées, j'ai un peu le cerveau en surchauffe. Alors, je peux vous dire que le week-end prochain, je me repose les neurones, je me refais l'intégrale de Jean-Claude Van Damme.
Anne Romanoff sur Europe.
Alors, on reçoit des mails d'auditeurs et je vais vous en lire quelques-uns.
Ah.
Alors, Florence qui nous dit « Je vous envoie ce mail car je suis inquiète. J'aimerais savoir pourquoi Didier Porte ne répond pas à mes mails. » Chère auditrice, ne vous formalisez pas. Didier Porte ne répond pas à vos mails car il ne répond à aucun mail. Non pas par mauvaise humeur, mais c'est ce qu'il n'a pas de mail. En revanche, vous pouvez toujours correspondre avec lui sur Minitel 3615 Didier Porte. Alors, Jean-Marie Castermans qui nous écrit « Chère Anne Romanoff, on vous adore. On est tous les jours avec vous de 11h à 12h30. Vous êtes très spirituelle, mais... la bande bruyante qui vous entoure et ne cesse de rire pour tout et rien devient insupportable.
Oh ouais.
N'y a-t-il pas un mécanisme pour baisser le volume de ces rires inutiles ?
Sympa.
Je vous assure que c'est un vrai mail. Alors, cher Jean-Marie, merci pour votre message qui contient néanmoins une imprécision. En effet, les rires de ma bande ne sont pas inutiles. Sans eux, je me sentirais bien seule. Je pense même que je serais malheureuse. Oh. Et si vous voulez m'entendre sans eux, une seule solution, venez voir mon spectacle.
Ah, t'as pas le nord.
Bah, il entendra beaucoup plus de rires de gens que les nôtres.
Alors Evelyne qui nous dit bonjour à tous, je voudrais dire à toute l'équipe à quel point votre émission me met de bonne humeur, à quand une émission également le samedi et le dimanche. Chère Evelyne, il est temps de révéler quelque chose à nos auditeurs, mes chroniqueurs et moi nous avons une vie sociale, ainsi qu'une famille et surtout on s'aime bien, mais enfin on n'a pas forcément envie de passer nos week-ends ensemble. Hein. Là vous avez le meilleur, mais je dois vous le dire, il faut quand même se les farcir.
Merci.
Mais si vous voulez passer le week-end avec nous, je crois que Mickaël est dispo, Léa aussi et Ben H aussi, je vous les envoie directement chez vous. Alors Antoine qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour assister à votre émission tous les jours pendant une semaine car j'ai besoin de faire garder ma belle-mère pendant les vacances scolaires. Merci de me répondre rapidement, sinon je serai obligée de l'abandonner sur une aire d'autoroute. »
Oh là là, merci Antoine.
Écoutez Antoine, on compatit à votre détresse et nous avons une solution. Nous transmettons votre demande à Jean-Philippe Vizini qui l'accueillera à bras ouverts car c'est un expert en garde de belle-mère. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga, Léa Londo, Ben H et notre invité Virginie Lemoine, actuellement au Théâtre La Bruyère à Paris dans la pièce « Comme en 14 » de Dany Laurent.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Ben H, Jérémy Lorca et notre première invitée qui est comédienne, auteure, metteur en scène. À la télé, elle a été famille d'accueil, le public l'a adoptée depuis longtemps. Elle peut aussi bien déclencher les rires que provoquer l'émotion. Elle passe de l'un à l'autre dans la pièce Comme en 14 qu'elle joue actuellement au Théâtre de la Bruyère. J'accueille Virginie Lemoine.
Bonjour.
Bonjour Virginie Lemoine.
Bonjour Anne.
Alors vous êtes là pour une pièce qui se joue actuellement au Théâtre de la Bruyère, une très jolie pièce qui est drôle et touchante. Racontez-nous.
Oui. C'est un, ça se passe pendant la guerre de 14 dans une salle de repos d'un hôpital un peu de fortune. Voilà, et c'est vraiment un hymne à la vie, un hommage aux femmes pendant la guerre de 14 avec ces femmes de différents milieux, de différents destins qui s'entrechoquent un peu. Et puis un jeune garçon qui est mon fils, qui est un tout petit peu en disgrâce avec la réalité, un peu particulier. Et c'est une petite fresque de ces femmes avec.
Là, il y a l'origine de la pièce est assez drôle parce que c'est une des comédiennes Marie Vincent qui a trouvé des carnets de son grand-père sur la guerre et qui l'a donné à l'auteur Dany Laurent qui en a fait une pièce. Donc ça part vraiment de témoignages réels.
Oui, absolument. Et elle en a fait quelque chose de formidable, Dany, avec des rôles de femmes magnifiques. Et puis c'est extrêmement touchant. Et vraiment très très drôle.
Mais vous avez l'habitude de passer d'un projet à un autre. Moi, je vous ai vu à Avignon l'été dernier dans la pièce de Woody Allen. Vous avez enchaîné avec cette pièce. Vous ne vous arrêtez jamais en fait.
Non, c'est vrai que j'ai une vie assez dense. J'aime beaucoup le théâtre. Et puis comme je fais beaucoup de mise en scène, ça fait des journées à rallonge et j'écris aussi. Donc,
là, vous êtes sur quoi en ce moment?
Alors là, le matin, je fais de la mise en scène. Je mets en scène un très joli texte de Stéphane Corbin qui s'appelle « Nos années parallèles » qui va jouer en Avignon. Et puis ensuite, j'adopte l'histoire des Jeux Olympiques pour la troupe du Théâtre Roman, dont je vais faire la mise en scène cet hiver. J'enchaîne avec une autre mise en scène d'un texte dont j'ai fait l'adaptation qui s'appelle « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri » qui va se jouer aussi en Avignon. Au mois d'août, je fais la mise en scène d'un autre texte que j'ai adapté avec Stéphane Laporte qui est « Tempête en juin », la première partie de Suite française, parce que j'adore Irène Mirovski. Et à la rentrée au La Bruyère, il y aura les deux parties de Suite française.
Et vous vous reposez quand?
Ça fait un peu beaucoup.
En tout cas, cet été à Avignon, pour Chagrin pour soi, avec Louis Ford, c'était absolument le carton du festival.
Ah, c'est gentil.
Ah bah oui, on n'entendait parler que de ça, le festival d'Avignon.
Ah, c'est très gentil, Et ça reprend cette année aussi avec Sophie. Ouais.
Bravo.
Qui est une amie d'Anne aussi, on s'est connus tout ensemble.
Et vous ne vous mélangez pas les pinceaux entre tous ces projets?
Non, mais il faut être assez organisé parce que metteur en scène, on porte tout. Il faut s'occuper de beaucoup de choses.
Et là, récemment, vous avez une jolie surprise. On vous a vu dans Les Disparus de Valenciennes, vous avez joué une grande bourgeoise qui changeait de votre rôle de famille d'accueil, qui était plus une femme populaire dans Famille d'accueil.
Oui, absolument. Oui, c'était une grande bourgeoise, un peu acariâtre, assez sèche. C'est rigolo à jouer.
Vous prenez un accent de bourgeoise?
Non, mais je peux avoir à peu près les codes assez facilement.
Pourquoi?
Parce que c'est pas très loin de mon milieu. Mais
vous venez d'un milieu bourgeois, Catherine Lemoine?
Oui. Je suis un peu du milieu d'Adrienne que je joue tous les soirs. Là. Donc,
Et vous dites ça comme quelque chose de désolé.
Mais ça se voit pas que vous êtes d'un milieu bourgeois.
Ben, c'est le propre du milieu bourgeois, c'est de savoir s'adapter à tous les milieux.
Mais vous avez une enfance très difficile quand on lit votre bio. Votre maman est morte quand vous avez 10 ans.
Ouais.
Votre papa était violent. Vous avez été élevée par votre frère homosexuel qui vous a construite.
C'était plutôt doux.
C'était le point positif, mais ça a été très douloureux.
Ça a été douloureux, mais comme beaucoup d'enfance de beaucoup de gens. Donc je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut rester très, très discret. Hein, parce que et puis ça vous forge, vous perdez un... On dit qu'on perd un sens, on en développe un autre. Et bien, quand on perd un amour inconditionnel qui est sa maman, ben on en développe d'autres. Et j'ai un amour inconditionnel pour mes frères. Hein. J'avoue que, à genoux, merci à mon frère aîné de m'avoir élevé.
Parce que c'est lui qui vous a sauvé.
Oui. Il m'a fait lire, il m'a fait du théâtre. Oui, c'est un être merveilleux, mes deux frères.
Alors que le mien, putain.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Virginie Lemoine, venue nous parler de la pièce « Comme en 14 », une pièce de Dany Laurent, actuellement au Théâtre de la Bruyère, une très jolie pièce sur la guerre de 14, drôle et émouvante. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Alain Benache, Jérémy Lanquel, notre invité Virginie Lemoine. Virginie Lemoine, alors vous dites que vous avez du mal avec la notoriété.
Ah oui.
Une fois, on vous a reconnu dans une boulangerie, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est une dame qui me dit, parce que moi je suis comme un lapin pris dans les phares d'une voiture quand je ne suis pas faite pour ça. Et un jour, je rentre dans une boulangerie, puis il y a une dame qui me dit « Oh, c'est vous ?» Je lui dis non, non. Ah ben j'aurais cru. Oui, ça c'est très cool. Ah non, mais je peux fuir, c'est terrible.
Qu'est-ce qu'on vous dit, ceux qui vous reconnaissent dans la rue de famille d'accueil, vous disent quoi alors?
Ils me disent félicitations pour ce que vous faites. Dis donc, c'était des situations difficiles parfois. Parfois c'est ça. Et puis parfois, c'est beaucoup de gens aussi qui me disaient qu'ils étaient en famille d'accueil et que ça les a aidés. Ça, c'est extrêmement touchant. Ouais, beaucoup de femmes aussi qui me disaient je suis assistante maternelle comme Marion dans la série. Les gens viennent m'en parler. Ça, c'est autre chose. C'est très, très touchant à recueillir.
Donc ça, parce que c'était une série très positive finalement sur la nature humaine.
Absolument, c'était formidable.
Parce que des fois, il y avait des parents très méchants. Heureusement que vous étiez là. Hein.
Oh là là. Vous avez vu ça, cette efficacité là formidable.
Oh, l'autre fois, il y en avait un. Il était vraiment méchant.
Méchant,
hein.
Méchant,
méchant. Mais violent avec ses enfants et tout. Et puis,
j'ai tout réglé.
Tout réglé. Vous avez été voir l'autre assistant social. Il vous bien a pas sûr. Fait confiance, mais après non, quand même. Et puis après, voilà. Vous avez fait venir les gendarmes. Il bien a été sûr, arrêté, bien arrêté. Fait pour sa gueule.
Voilà, je préviens tout le monde. Vous ne dites rien à Anne jusqu'à aujourd'hui. Elle croit que c'est un reportage.
Mais vous savez que ma boulangère croyait ça parce que j'ai été chercher mon pain pendant 8-10 ans. La même boulangerie. Et la dame me disait toujours, comment ça va? Alors vous travaillez, vous êtes ici? J'ai dit, oui, et puis je vais repartir à Bordeaux. Ah, vous partez à Bordeaux, bon. Et puis un jour, elle me dit, mais au bout d'années et d'années, elle me dit, mais vous savez, j'ai un client qui fait la même chose que vous. J'ai dit, ah bon? Et les comédiens? Non, non, il fait famille d'accueil. Elle croyait que j'étais... C'était très, très étonnant, ça. Ouais.
Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Virginie Lemoine.
Oui. Déjà, Virginie Lemoine, avant tout, moi, je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous rencontrer parce que je vais enfin pouvoir vous remercier de vive voix pour votre engagement dans la lutte contre l'homophobie à travers divers projets parce que je sais que vous êtes très impliqué. Alors, malheureusement, en 2019, c'est toujours un sujet d'actualité. D'ailleurs, là, on en a reparlé avec la Ligue du LOL. Vous savez, ces journalistes qui ont créé un groupe Facebook pour faire des blagues, d'où le nom, la Ligue du LOL, et qui ont amené plusieurs femmes journalistes à être menacées de mort et harcelées pendant 4 ans. C'est sûr que quand on entend ça, on se dit, oh ben, LOL. Si leur projet de base était de faire des blagues, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a clairement merdé à un moment donné. Hein. Et ils ont aussi harcelé des journalistes gays ou qui soupçonnaient d'être gays pour les dénoncer, non pas comme en 14, mais comme en 39-45. Et c'est fou parce qu'en fait, la Ligue du LOL a toujours existé. Dans la cour de récré, c'était ce groupe de gars populaires que tout le monde aimait bien et qui décidait sans raison de te pourrir la vie. Et c'est des choses qui peuvent être traumatisantes. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, on a découvert que j'avais une jambe 1 cm plus haute que l'autre.
Et bah, direct, que la jambe
Que la jambe. Et bah, moi, direct, on m'a annoncé ça. J'ai pensé à la Ligue du LOL de mon collège qui arrêtait pas de me dire hey, sale PD, arrête de rouler du cul, la route elle est droite. Et là, j'apprends quoi? Que c'était médical, en fait. Mais c'est ça. Mais si ça se trouve, je suis même pas gay.
Non, va pas trop loin.
Alors, la vraie Ligue du LOL a poussé des gens à devoir dire publiquement qu'ils étaient homo et on devrait jamais le dire sous la menace. Il faut juste le dire à ses proches quand on sent que c'est le bon moment. Moi, j'ai eu de la chance dans ma famille, tout le monde l'a bien pris, sauf mon grand-père. Ah bah lui, il est relou, comme il a Alzheimer, je suis obligé de lui refaire mon coming out tous les dimanches. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venu nous parler des funambules ou de la pièce 31, mais de Comme en 14, une pièce qui se passe pendant la Première Guerre, un soir de Noël. C'est une pièce qui met en valeur les femmes avec des personnages forts. Pour l'instant, vous jouez à Paris, on espère que vous ferez une tournée puisque vous le dites. Hein. Quand on part en tournée avec une troupe, on est unis par une aventure commune qui se poursuit de soir en soir. Alors honnêtement, Virginie, on n'a pas fait les mêmes tournées. Vraiment. Parce que moi, je me suis déjà retrouvé à Perona, dans la banlieue de Bourg-en-Bresse, dans un fast hôtel au bord de l'autoroute, agréé par les routiers, avec des murs tellement fins que quand t'entends quelqu'un ronfler, tu te réveilles en sursaut. T'as l'impression que c'est un ouragan. Et franchement, j'en garde pas un grand souvenir. Hein. Parce que le pire, c'est le lendemain quand tu te réveilles et que tu vois le truc en plein jour et que tu réalises que tu dors sur le parking d'un Auchan. En face d'un grand magasin de prêt-à-porter pour hommes, la halle aux vêtements. Ça peut être un cauchemar la tournée, hein. Surtout quand on part avec des gens pas très sympas, ça peut arriver. D'ailleurs pour vous, l'amitié c'est important, vous le dites. J'ai beaucoup d'amis, je suis très entouré, j'ai beaucoup de chance, je donne beaucoup d'amour et j'en reçois beaucoup. Eh bien effectivement, vous avez de la chance parce que moi aussi je donne beaucoup d'amour autour de cette table et je n'ai rien en retour, n'est-ce pas Ben H? Alors vous déclarez également que vous avez pas mal voyagé en Russie, notamment où des femmes se baladent avec des pièces personnes pour gagner leur vie. Vous dites, elles ont que ça, elles ont que leur balance, alors monte dessus et donne ce que tu as. Alors oui, je veux bien, mais quelqu'un qui vient te voir en vacances pour te peser, ça peut clairement te bousiller ton séjour. Moi la dernière fois que je suis monté sur une balance, ça a noté erreur. Alors vous dites que comédien c'est un métier d'athlète, qu'il faut être physiquement préparé. Je comprends pourquoi ça décolle pas, donc tout s'explique. Je vais me mettre au sport. Moi merci de m'avoir écouté, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre pièce.
Merci, merci beaucoup. C'est une très jolie anecdote d'ailleurs sur, sur le spectacle 31. Je crois que c'est un des plus beaux moments de ma carrière, des plus émouvants. J'espère que je ne vais pas pleurer en le racontant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce spectacle 31. C'était assez émouvant. C'était l'histoire de quatre amis voilà, qui se retrouvaient tous les 31 décembre et on remontait en arrière. Bon. Bref, et ce spectacle provoquait une certaine émotion. Et de temps en temps, il y avait des salles qui étaient debout à la fin. Et un jour, en Avignon, les gens se lèvent et il y avait un monsieur qui était dans une chaise roulante. Et ce monsieur a voulu se lever. Et il a bataillé avec son siège et ses béquilles. Tout le monde l'a attendu, les comédiens l'ont attendu. Et il a fini par se tenir debout pour applaudir. Et tout le monde a pleuré.
C'était oh là là.
Un des plus, les moments les plus émouvants que j'ai vécu.
Wow. Merci Virginie Lemoine d'être passée nous voir. On rappelle la pièce qui se joue actuellement au théâtre de La Bruyère comme en 14. Une pièce de Daniel Laurent avec Virginie Lemoine et quatre autres comédiens
dont
sur scène.
Dont Marie Vincent.
Avec mise en scène de Yves Pugnot, une pièce drôle et touchante sur les femmes pendant la guerre de 14. Oui. Merci Virginie Lemoine.
Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous.
Dans quelques instants, c'est Raphaël Enthoven qui sera notre invité.
Midi 30,
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Landau-Benach, Jérémy Lorca et notre invité qui est le plus connecté des philosophes, également le seul capable de citer dans une même chronique à la fois Marcel Proust et Maître Yoda. À la radio, il a su redonner à la philosophie une place de choix. Il vient nous parler de son nouveau livre Nouvelle morale provisoire. Raphaël Enthoven est avec nous ce matin. Bonjour Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, il y a une question que tout le monde voudrait poser aux philosophes, mais personne n'ose, alors je me lance. Comment on appelle Nietzsche?
Comment quoi?
C'est bien, super.
On va commencer par comment on le prononce déjà.
Ça s'appelle Nietzsche.
Ouais, exactement.
Nietzsche. Voilà.
Mais il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler ou ça se prononce comme
non,
ça?
Non, il n'y a aucun moyen mnémotechnique. Il faut juste ramer, il faut faire un effort. C'est comme ça. C'est Nietzsche, mais ça se dit Nietzsche, ce qui est plus facile.
Raphaël Enthoven, dans votre livre Nouvelle morale provisoire, vous dénoncez le flot continu de l'information, notamment sur Internet. Pourtant, vous-même, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre livre, c'est une forme d'autocritique aussi?
Non, je ne le dénonce pas du tout. Au contraire, je dis qu'on est milliardaire en news, mais qu'on ne sait pas en profiter. Je dis qu'au contraire, on vit comme un gavage, ce qu'on devrait recevoir comme un anniversaire quotidien. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est le Père Noël, les infos. Ce n'est pas du tout une invasion. C'est au contraire un trésor. On est milliardaire et on ne sait pas s'en servir. Donc, j'essaie dans ce livre, humblement, de montrer que des trucs qui nous accablent et qu'on essaie d'oublier parce qu'on a besoin de respirer sont en fait des trucs passionnants où on peut prélever des diamants, de l'or et des rigolades.
Vous avez toujours cette voix chic un peu.
Elle est en train de vous draguer.
Non, pas du tout, mais à côté comme ça, un peu comme ça.
Mais vous savez, en fait, c'est que...
On sent que vous venez pas d'un milieu populaire.
Ah bon?
Ça veut dire quoi, ça?
Mais qu'est-ce que vous savez de mon milieu?
Non, mais la manière dont vous parlez, quand même, il y a une forme d'élégance.
Vous voyez que je vais l'aider comme ça?
Un peu.
Ah bon? Non, c'était vous, ça. Non, sur scène, enfin bon, peu importe. D'accord, peut-être si vous le dites.
Et vous pourriez prendre une voix un peu plus prolo, Raphaël Enthoven?
Je sais pas. Oui, certainement, mais j'aime pas me donner en spectacle. Donc je le ferai pas ici.
Bah, vous aimez pas vous donner en spectacle? Vous adorez faire du théâtre? Vous dites, c'est là où vous en...
J'adore faire du théâtre.
Et en même
absolument.
Temps, c'est
on va sur scène ensemble quand vous voulez. Hein, et là, je prends la voix que vous voulez.
Ce qui non, me fait mais... rire, c'est que c'est Anne Romanoff qui vous dit, mais c'est vrai que vous avez une élocution. c'est gonflé. Quoi.
Non, mais vous dites, vous avez fait 10 ans de théâtre avec les anciens Normal Sub, une troupe qui s'appelait Archicube, et vous dites que c'est là.
Ça s'appelle toujours d'ailleurs.
Vous êtes le plus heureux sur scène, le plus à l'aise.
Je n'aime rien tant que les estrades, les scènes, tous ces endroits, le studio de radio quand la lumière rouge s'allume et qu'on est sans filet. C'est les moments où je suis tranquille, en fait. C'est les moments où je suis serein, parce que c'est les moments où on est débarrassé de soi-même. On ne peut pas penser à soi quand on est exposé, quand on est en danger, quand on est sans filet. On ne peut pas penser à soi, on ne peut pas s'encombrer de soi-même. Donc, c'est des moments où on est libre de soi.
Est-ce que vous avez joué des rôles de prolo, justement?
J'ai joué à peu près tous les rôles. En 10 ans de théâtre, vous faites beaucoup de choses différentes. J'ai joué des connards brutaux. J'ai joué
alors
des,
ça donne quoi,
des
Raphaël Enthoven en connard brutal?
Je vous montrerai tout à l'heure. Si vous là encore, c'est vraiment dans un studio, c'est délicat. Voilà.
Et vous aimeriez faire du cinéma ou des choses comme ça?
Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question.
On vous a proposé?
Oui, mais...
On vous a proposé quoi comme rôle?
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Par charité pour ceux à qui j'ai dit non, je tairai leur nom. Donc voilà.
Mais alors, vu le genre, moi je dirais camping.
Alors vous seriez surpris, absolument. J'ai même essayé le slip bleu. Enfin voilà. Donc, mais là encore, je peux pas montrer ça ici, même à Europe.
Alors Raphaël Enthoven, vous posez des questions concrètes
dans votre livre Nouvelle morale provisoire aux éditions de l'Observatoire, en rapport avec l'actualité récente, par exemple, valait-il mieux pour Weinstein qu'il se fît prendre ou qu'il restât impuni ?
Oui, parce que c'est un débat, en fait. Alors, pardon, il faut que je parle de Platon, là, mais c'est important. Vous savez, il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, dans lequel Socrate explique à son interlocuteur que, en fait, pour un usurpateur, un type qui veut usurper le pouvoir, il vaut mieux qu'il se fasse prendre, que sa famille soit écartelée sous ses yeux et que lui-même meure, plutôt qu'il parvienne à ses fins. Et l'autre lui dit, mais enfin, t'es complètement fou. Le type, au lieu d'arriver au pouvoir et de jouir du pouvoir, il vaudrait mieux qu'il se fasse prendre. Oui, lui dit Socrate, parce que le vice est de plus mauvaise compagnie que la vertu, même quand on est puni pour elle. Bon, et c'est un débat qu'on avait
rien
autour.
Compris, hein.
Bah, c'est autour d'un.
Non, mais je vois pas le rapport avec Harvey Weinstein.
Mais parce que Harvey Weinstein, quand l'affaire est sortie, il y avait des gens pour dire, tu te rends compte, le mec, il s'est fait prendre, mais il aurait pu ne pas se faire prendre. Il aurait pu passer sa vie à se taper les plus belles actrices du monde et mourir dans la gloire et dans la fortune, et il s'est fait prendre. C'est dommage pour lui. J'ai entendu ce discours-là. Or, c'est exactement l'argument de l'interlocuteur de Socrate, qui disait, un usurpateur, il vaut mieux qu'il parvienne à ses fins plutôt qu'il se fasse prendre.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous pensez, Raphaël Hinton?
Bon, on s'en fout, mon opinion n'a aucun intérêt, c'est pas mon but. Mon but, c'est de trouver, je trouve une situation concrète que tout le monde connaît.
Et d'en tirer des réflexions.
Je connais un texte qui dit la même chose et qui a 2500 ans d'âge. Je ne fais que la jonction entre les deux. Mon boulot, c'est ça.
J'ai rien compris, il y avait déjà Weinstein il y a 2500 ans.
Mais oui, comment ?
Il y en a plein des Weinstein.
Qu'on ne violait pas il y a 2500 ans, qu'on n'abusait pas des gens et la condition des femmes à Athènes il y a 2500 ans.
Malheureusement.
Non, mais est-ce qu'il y a vraiment, d'ailleurs, pour un philosophe, des réponses tranchées à ces questions, ou est-ce que ce livre, c'est juste une invitation au débat ? Parce que, est-ce qu'à la fin d'une discussion philosophique, il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, ou alors tout le monde a raison et personne n'a tort ?
Ça dépend de la discussion. Ça dépend de la discussion.
Ça doit être impossible dans la vie privée de discuter avec un philosophe.
Au contraire, je crois. Enfin, j'espère. Je ne sais pas.
Alors là, j'imagine. Vous devez faire des pirouettes. La fille, elle ne comprend plus rien.
Des pirouettes, je mets les pieds sur la tête.
Non, mais c'est compliqué, quelqu'un qui a une telle brillance intellectuelle pour discuter vraiment des choses.
Discuter des choses, c'est quoi ? C'est être capable de changer d'avis quand on parle d'un sujet, c'est tout. C'est arriver avec le moins de certitude possible. Il y a une phrase vraiment qui est belle comme tout, qui dit « n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi ». Donc en gros, quand vous croisez des gens qui sont absolument sûrs de ce qu'ils racontent, qui croient tout ce qu'ils pensent, c'est qu'ils n'ont pas approfondi la chose. Donc mon boulot, c'est d'arriver avec une petite pelle dans ces cas-là et de creuser un peu pour montrer éventuellement à la personne qui est pleine de ses convictions que peut-être, il y a une autre façon de penser.
Et vous êtes convaincu de ce que vous venez de dire ?
Absolument certain. Et je tombe sur tous les vices que je dénonce.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Raphaël Hinton de nous parler de son dernier livre Nouvelle morale provisoire qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Ben H, Jérémy Lorca. Et notre invité Raphaël Hinton de nous parler de son dernier livre, Nouvelle morale provisoire aux éditions de l'Observatoire. Oui, mais alors, excusez-moi, mais ce côté de dire tout est possible, tout est valable, il ne faut pas avoir de conviction. Il y a un moment.
Ça te perturbe.
J'ai pas du tout dit ça. Hein. J'ai pas dit que tout était valable.
Mais en
valable,
même temps,
hein.
Elle a dit qu'elle n'avait rien compris.
Ah, mais d'accord.
C'est bon, alors ça marche. Crois qu'il a dit qu'il ne fallait pas rester engoncé dans ses certitudes. Quelque chose comme ça.
Voilà. C'est tout, ça s'arrête là, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Hein.
Mais c'est de la philo, quoi.
Oui, mais il y a un moment quand on a des sentiments, il y a des choses qui sont sûres aussi, quand même.
Bien sûr. Bien sûr, il y a des choses qui sont sûres. Par exemple, il vaut mieux discuter que s'opposer. Ça, c'est une certitude.
Du coup, les politiques qui sont pétris de convictions, c'est de l'incompétence aussi.
Non, c'est que c'est très difficile de faire de la philo et de faire de la politique en même temps. Parce que quand vous faites de la philo, en gros, même si vous avez des opinions, des certitudes, des convictions, on en a tous, hein, des convictions, on est citoyen, c'est normal. Même si vous avez des convictions, votre boulot consiste quand même à la fin d'une vérité à vous intéresser à la vérité, entre guillemets, à laquelle vous n'adhérez pas. Sinon, vous ne le faites pas sérieusement, en fait. Et donc, c'est très compliqué l'engagement politique ou l'encartement politique avec la pratique de cette discipline. Et il y a des tas d'exemples d'ailleurs de philosophes, moi je suis prof de philo, mais de philosophes, de grands philosophes qui se sont heurtés au jeu politique. Raymond Aron, par exemple, il a essayé d'être socialiste, il n'a pas réussi parce qu'il n'arrivait pas à être pacifiste dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, il a essayé d'être gaulliste, il n'arrivait pas parce qu'il était trop libéral. Et il a quitté la politique en disant, dans la jungle, la velléité ne pardonne pas. Il ne peut pas. Il a l'esprit trop... En un sens, je parle de Raymond Aron ici, il a l'esprit trop ouvert pour être engagé en politique.
Donc le philosophe est honnête,
non.
Forcément.
Non, la philosophie est une discipline honnête. Les philosophes ne la pratiquent pas tous comme il faudrait le faire.
Vous êtes honnête, Raphaël Hinton ?
Si je suis honnête avec vous, je dois dire que non. Parce que ce serait... Il m'arrive aussi de faire passer mes convictions en loose-dé, j'imagine, hein, et de les maquiller de rhétorique. C'est possible, c'est sûr.
Mais ça doit être un enfer pour une femme, un homme comme ça.
Pourquoi ? Vraiment.
Mais parce que vous êtes beau, vous êtes brillant, vous devez... elles doivent plus savoir rien.
C'est horrible.
Oui, je suis sûre.
Tu veux dire, elles auront forcément un complexe d'infériorité ?
Non, c'est pas ça, c'est qu'on sait plus. C'est-à-dire, on comprend, on s'écoute, alors on dit, ah bah ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est. Et après, on sait plus
mais,
où on est.
Non, mais ça non, ça
vous comprenez vrai. De quoi je parle ?
Non, mais moi je vous écoute parler de moi, c'est très intéressant. En fait. C'est super, quand tu continues, hein, c'est super. J'adore vous écouter, donc c'est bien.
Non, mais j'aime pas bien ce que j'entends, parce que ça sous-entend que les femmes seraient moins intelligentes que vous.
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que cette espèce de.
Ça t'embrouille, quoi.
Côté ouais, voilà.
Ça peut être embrouillé.
Amis, c'est juste que la réalité, pour le dire très simplement, la réalité est trop complexe pour subir une grille en noir et blanc. Le monde est trop complexe, trop fin, trop subtil, trop intelligent, trop drôle d'ailleurs, pour qu'on soit là à dire où est le bien et où est le mal, c'est tout. Alors, le désir qu'on a de savoir où est le bien, où est le mal est bien naturel, mais ça reste faille.
Ce que veut dire Anne Romanoff, là, c'est que voilà... Vous... Elle est en dîner, il y a un mec comme vous qui lui dit non mais le bien, le mal, deux heures plus tard elle est dans le lit, elle sait pas pourquoi. Voilà.
Non, c'est pas ça que je dis exactement. Je dis que cette espèce...
Ils ont du mal à vous comprendre.
Cette espèce d'esprit rhétorique brillant, ça, je sais
ça
pas,
perturbe.
Je trouve... Oui, c'est déstabilisant.
Mais c'est pas de la rhétorique, Anne, pardon. Je veux juste dire ça parce que ce serait vexant si vous aviez pensé tout ça, mais c'est pas de la rhétorique au sens où c'est pas juste un jeu de l'esprit ou c'est pas de la gymnastique mentale, c'est juste le goût de chercher la vérité en fait, de chercher la vérité et le refus de penser qu'on la détient. Voilà. Vous avez le goût de chercher la vérité.
Mais est-ce qu'il y a une fin à toutes ces réflexions ?
Non, bien sûr que non. Enfin, il y a une fin, c'est la mort, la fin. C'est la mort, la fin. La vie est provisoire. Donc,
mais c'est comme s'il n'y avait aucune réponse aux questions.
Non, il n'y a aucune réponse. Il y a des tas de réponses. Mais répondre, c'est facile. Mais une réponse n'est jamais satisfaisante. Ce qui est intéressant.
Oh là là, mais comment tu peux discuter ?
Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que nous, on y arrive. Quoi.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une vérité du ressenti aussi, de ce qu'on ressent. Et la manière d'arrêter cette machine à penser, c'est de se mettre dans le ressenti de son corps.
Mais c'est pas un obstacle, le corps et l'esprit, je veux dire. S'il y a une vérité du ressenti, ce que vous éprouvez est viscéral, c'est à vous et c'est vrai, en un sens. Ça veut pas dire que ça soit vrai dans l'absolu. Par exemple, votre corps vous dit la Terre est plate. Parce que c'est comme ça que vous percevez les choses, c'est comme ça que vous les ressentez. Bon, vous n'avez pas tort de l'éprouver comme ça. Mais vous avez tort d'en déduire que la Terre est plate. Si vous prenez ce que vous ressentez pour la vérité, c'est là que vous faites une erreur.
Ah oui. Elle n'est pas plate.
Il y a de plus en plus de platistes en même temps.
En plus,
non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de platistes. Ouais. Mais surtout, un platiste, c'est quelqu'un à qui on peut jamais donner tort. Ouais. C'est comme un dogme. Vous pouvez dire n'importe quoi. Vous savez, c'est comme ces gens.
On ne peut jamais vous clouer le bec, Raphaël Antoven.
Pas de cette façon-là. Mais,
c'est déjà arrivé que quelqu'un vous mouche.
Je n'entrerai pas dans ces détails.
Non, mais sérieusement, même dans un débat, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on arrive à vous clouer le bec ? On peut pas.
Tout le temps, là, maintenant.
Bien sûr que ça peut arriver. Il suffit de dire un truc intelligent. Bon, toi, laisse tomber, mais...
Non, mais c'est sans fin, en fait. C'est ça qui me fait peur, moi, dans cette manière de...
Pourquoi peur ? Pardon, je vous pose une question.
Parce qu'à un moment, ça fatigue. Je sais pas, j'ai presque mal... Excusez-moi, j'ai presque un peu mal à la tête en vous écoutant.
Parce que tu réfléchis, c'est ça ?
J'ai l'habitude de réfléchir.
C'est comme si chaque phrase était une source de réflexion.
Je vais vous dire, Anne, je suis prof de philo, en fait. Sur toutes les estrades du monde, je suis prof de philo et je le suis encore maintenant, ici, chez vous, et avec plaisir. Je suis prof de philo. Je considère que c'est vraiment le plus... D'abord, que professeur est le plus beau métier du monde et que prof de philo, c'est le plus beau métier du plus beau métier du monde. Je suis prof de philo, je suis absolument fier de ça. C'est le sens de ma vie et c'est comme ça que je fonctionne. Et je vous assure qu'on vit très bien comme ça. Vraiment, on vit très bien comme ça et que c'est pas parce qu'on a des doutes ou parce qu'on cultive ces doutes qu'on n'a pas le sentiment d'être sur une terre ferme et de marcher droit.
Voilà, ça j'ai compris. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Mickaël Quiroga, Alain de Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Antoven venu nous parler de son dernier livre, Nouvelle Morale Provisoire, aux éditions de l'Observatoire. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous
sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Alain de Benhaj, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Lentouven veut nous parler de son dernier livre, Nouvelle morale provisoire aux éditions de l'Observatoire. Vous avez 43 ans, Raphaël Lentouven, vous avez une œuvre quand même qui est déjà très conséquente.
C'est vous qui le dites, ça. Moi j'ai l'impression d'avoir rien fait. Jusqu'ici, ah oui, non, j'ai l'impression que rien n'a commencé. Mais c'est un sentiment qu'on partage tous, non ?
Vous n'avez pas l'impression que... Ah non, c'est pas... Moi, je suis un peu au top de ma carrière.
Non, moi, j'aime pas trop le côté, je me regarde dans une glace avec mes médailles en disant c'est pas mal ce que j'ai fait jusqu'ici, etc. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait. La seule chose qui existe peut-être
c'est
encore,
ce qu'il reste à faire.
Voilà, c'est ça. J'ai du mal avec la complaisance dans le passé, quoi. Le brandir mes médailles, bomber le torse et me flatter de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, comme son nom l'indique, ben je l'ai fait. Voilà, c'est fini.
Vous avez une humilité, en fait, qui ne se voit pas de prime abord.
Ah bon ?
Sympa.
Non, mais... Elle est toujours délicate.
Non, mais c'est vrai. En fait, finalement, vous êtes humble, Raphaël Lentouven.
C'est à vous de me le dire. Je suis mal placé pour vous dire. Si je vous disais, ah oui, je suis humble, vous savez. Je vais citer Rousseau. Tiens, vous savez, Rousseau disait, et c'est lui qui a inventé ça, il a dit, je crois que nul homme, jamais, n'eut moins de vanité que moi. Ce qui est vraiment la formule de l'orgueilleux par excellence. J'adore. Donc, je ne vais pas vous dire, ouais, je suis super humble. Ce serait bizarre, non ? Je suis champion du monde de l'humilité.
Mais vous comprenez que parfois vous pouvez agacer les gens par votre côté, justement, cette facilité à manier le verbe, cette voix un peu...
Les gens que j'agace pour cette raison-là ne m'intéressent pas. Les gens que j'agace parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi et que j'essaie de leur montrer des arguments et que j'essaie d'accéder à la discussion avec eux, cela m'intéresse. Les gens que j'agace parce qu'ils trouvent que je parle trop vite, je m'en fous, c'est leur problème, c'est pas le mien si vous voulez, je parle comme je peux. Mais en revanche, les gens que j'agace parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on arrive malgré tout à construire une discussion, là ça m'intéresse.
Moi au contraire, je trouve que c'est comme écouter du piano, on peut écouter ça pendant des heures. C'est vrai.
Merci pour le ça.
Excusez-moi. C'est pas réducteur,
non, ça va,
mais...
Non, mais je prends le piano, ça va.
Des heures, faut le dire vite quand même.
Non,
quand on est élève, on n'a pas le choix.
J'ai une petite question, moi, tout de même, parce que vous avez fait la distinction tout à l'heure entre un prof de philo et un philosophe. C'est quoi la différence ? C'est le succès, c'est quoi ?
Non, c'est que je suis mal placé pour me désigner moi-même comme philosophe.
En revanche, sont les autres qui vous...
Bah oui, c'est les gens disent, ils ont collé l'étiquette philosophe. Et en général, ils disent, alors les gens décrètent que vous êtes philosophe, ils décrètent que vous êtes philosophe autoproclamé, ce qui est extraordinaire. Vous ne le dites jamais vous-même, mais on vous a proclamé philosophe autoproclamé. Je suis prof de philo parce que j'ai passé des concours qui permettent d'exercer cette profession. Et je peux dire objectivement et en toute rigueur qu'effectivement, je suis prof de philo.
Mais vous n'êtes pas philosophe alors ?
Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Voilà.
Quels sont les philosophes contemporains que vous appréciez, Raphaël Lentouven ?
J'aime au-delà de tout un philosophe qui est mort l'an dernier, qui s'appelle Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle notamment. Il a écrit beaucoup de livres et des chefs-d'œuvre. Il en a écrit un notamment qui s'appelle Le réel et son double. Et je le cite parce que c'est un livre qui date de 75 et c'est un livre dans lequel il se prend, même s'il les nomme pas comme ça, les fake news. C'est le meilleur déconstructeur de l'idée même de fake news et du rapport au réel. C'est le philosophe du réel et il travaille sur toutes les façons qu'on a d'esquiver le réel. Il est très drôle, il est merveilleux. Je le dis à l'antenne, son livre s'appelle Le réel et son double. J'espère que des gens auront la curiosité d'aller y voir.
Vous pouvez répéter son nom parce que Anne n'a pas noté.
Clément Rosset.
Si j'ai noté. Mais ça suffit. Benhaj a des choses à vous dire, Raphaël Lentouven.
Oui. Alors sachez avant tout que face à vous, Raphaël Lentouven, je n'emmène pas large à exposer mes mots à un homme de lettres, mes réflexions à un homme qui pense. Moi, servir à une chronique à Raphaël Lentouven, j'ai l'impression de servir un McDo à Philippe Etchebest. Et paradoxalement, c'est ça qui est marrant, pour mes collègues chroniqueurs, ce même papier, c'est du caviar. Ah, comme quoi, chacun son niveau, les copains, on est bon esprit. Qu'on se le dise à l'entame de ce billet, ma plume se déplume, ma voix passe en mode vibreur. Si au bac, la philo était une épreuve orale, quelle chance de la passer ce midi face à vous, Raphaël Lentouven. Bref, à l'image d'un philosophe qui manie l'allégorie pour mieux se faire comprendre, je resterai dans le lexique imagé du bachelier pour vous résumer ainsi la situation. Ce midi, Raphaël Lentouven, je me chie dessus. Et pour cause, il n'y a qu'à entendre notre invité parler de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie d'être sous le feu de l'éloquence de monsieur Lentouven. C'est le seul mec, quand il te clash, tu as besoin d'une bibliothèque pour comprendre les attaques. Pourtant, derrière le philosophe, il y a forcément un être humain, comme tout le monde. Même Platon pouvait aller se gratter un bingo PMU en allant parler avec bêtise de la bêtise. Et en parcourant votre bio, Raphaël Lentouven, deux thématiques récurrentes dans votre œuvre m'ont sauté aux yeux. Marcel Proust et le clitoris. Alors, ça nous aide déjà un point commun.
Le clitoris n'était pas du tout l'obsession de Marcel Proust.
Non, aucun rapport. Mais lequel des deux, ce point commun, indice, Raphaël, je ne suis pas trop littérature. Même si, je l'avoue, mon légendaire égoïsme me pousse à penser que le clitoris, dans le fond, c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. À mon sens, le philosophe, c'est celui qui se pose les questions qu'on ne se pose pas. Mais quand on finit par se les poser, on réagit toujours en passant par les deux mêmes étapes. Première étape, Deuxième étape, bah ouais, bonne question. Par exemple, une question au hasard présente dans votre dernier ouvrage. Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en lui ? Bah ouais, bonne question. Ça m'avait fait déjà le coup à l'épreuve de philo au bac. J'ai eu la question. Les lois sont-elles l'œuvre de la raison ? Bah ouais, bonne question. Et ce qui est bien avec la philo, c'est que chaque question entraîne non pas des réponses, mais d'autres questions. Par exemple, la question que j'avais eue au bac, les lois sont-elles l'œuvre de la raison, m'a mené immédiatement vers une autre question. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et parce que la philosophie, c'est avant tout un échange. Mon père aussi s'est mis à poser des questions après avoir reçu ma note. Fiston, connaissant bien ta mère et d'un point de vue strictement génétique, comment tu peux être aussi con ? Ce à quoi tu réponds inévitablement, bah ouais, bonne question. Puis par la suite, mon rapport à la philosophie s'est limité à la lecture des livres de Loana et à mon meilleur ami, Bruno, qu'on appelle le philosophe. Pour sa capacité, à poser aussi des questions qu'on ne se pose pas. Par contre, lui, il ne puise pas son savoir dans les livres, mais dans le chardonnay. Et par exemple, samedi soir, en fin de soirée, il est venu nous dire bah ouais, bonne question, Bruno. C'est tellement important de se poser les questions, Raphaël Enthoven. Dans une société où chacun pense avoir sa vérité et où personne ne confronte plus ses réponses, à une époque où les médias regardent le monde de toujours plus près pour avoir justement ces mauvaises réponses, il serait bon de prendre plus de recul pour se poser les bonnes questions. Alors que se taisent les polémistes et que s'expriment les philosophes, Raphaël Enthoven, une fois n'est pas coutume, merci de m'avoir écouté.
Ouais.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, la dernière partie avec Mickaël Quiroga, la lampe de Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Enthoven, venu parler de son dernier livre, Nouvelle morale provisoire.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Lando, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Enthoven de nous parler de son dernier livre, Nouvelle morale provisoire. Vous voulez réagir à la chronique de Ben H ?
Oui, j'aime beaucoup ce qu'il dit du chardonnay parce que. La différence, selon mon Clément Rosset que j'ai cité tout à l'heure, la différence entre l'homme ivre et l'homme sobre, c'est que l'homme ivre sait qu'il est bourré, alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. De sorte que. Mais c'est vrai, on peut pas être bourré sans savoir qu'on est bourré. En revanche, il y a des tas de gens sobres qui croient que pour cette raison, ils ne disent pas de bêtises. Donc il dit, l'homme bourré a toujours un coup d'avance sur l'homme sobre. Donc il est pas absurde, Bruno.
Ce Bruno, d'accord. Et...
C'était bien.
Du coup, in vino veritas.
Bah ouais. Ouais. Hey, in vino, ouais. Enfin, dubito. Ouais.
Quoique, moi, j'ai déjà entendu plein de mecs bourrés dire, je suis pas bourré du tout. Voilà, ça existe aussi.
C'est vrai, mais ils ont un doute sur ce qu'ils disent.
Raphaël Enthoven, dans votre livre, vous dites à propos de l'amour, mais à moins d'un miracle, il n'y a littéralement aucune raison pour que le partenaire idéal soit aussi le partenaire de vos rêves.
Ouais.
Que ça veut dire ?
Bah, c'était sur Tinder, en fait. C'est parce que Tinder a développé, ils ont lié la folie des algorithmes, et donc ils considèrent maintenant que c'est pas simplement le coup d'un soir, c'est qu'ils vont, grâce à Tinder, vous trouver le perfect match pour toute la vie, quoi.
Mais on présente que des moches, moi, sur Tinder.
Justement. Ils disent, voilà, on va vous trouver ça. Or, c'est une illusion parce que l'amour n'est pas une science exacte. Si on vous demande, si votre conjoint vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez et que vous, imprudemment, vous vous aventurez à répondre à cette question, votre histoire est morte. Puisque, quelles que soient les raisons que vous donnez à votre amour, ça veut dire que l'amour disparaît le jour où ces raisons s'en vont. Si vous dites à quelqu'un, je vous aime parce que vous êtes beau, le jour où le type sera laid, ben, vous l'aimerez plus. Donc, quelle que soit la raison, on ne peut pas donner de raison à l'amour. Or, Tinder fonctionne sur l'idée que une addition de qualité produira la personne parfaite pour vous. Et c'est vrai que souvent dans la vie, la personne qui, entre guillemets, vous correspond le mieux n'est pas celle que vous aimez. Il y a là quelque chose d'irrationnel que Tinder, avec tous les algorithmes du monde, ne peut pas résoudre.
Ouais. C'est pas très compliqué, ça.
Ah, j'ai compris que c'était compliqué. Ouais, ouais. Mais ça, je m'en étais aperçu par moi-même.
Et qu'il fallait pas aller sur Tinder.
Léa Lando, des questions à vous poser.
Raphaël Enthoven, donc le titre de votre livre, Nouvelle morale provisoire, m'a perturbée parce que j'aime tout ce qui est nouveau, mais j'ai du mal avec ce qui est provisoire. Puis la morale a tranché parce que vous êtes beau, et comme disait Kant, le beau est le symbole du bien moral. Alors je sais que j'ai dû perdre la moitié des auditeurs et Anne, mais tout cela m'emmène vers ma première question. Est-ce qu'on pourrait dire que lire du Raphaël Enthoven, c'est bon pour le moral ou c'est bon pour la morale ?
Ah, je ne suis pas bien placé pour vous le dire. Ce que je sais en revanche, c'est que lire ce livre, on ne reçoit aucune leçon de morale dans l'histoire. Ouais. Je ne suis pas moralisateur. Je ne dis pas où est le bien, où est le mal. J'en sais rien et je suis très mauvais exemple de ça. Mais en revanche, j'essaie d'être un peu moraliste. C'est-à-dire, j'essaie de tirer une morale, pas de faire la morale, si vous voulez. Voyez.
Alors, justement, une actu parfaite, selon vous, Raphaël Antoven, c'est celle qui relaye une info, qui remonte le moral ou qui transmet une morale?
Non, une actu parfaite, c'est une info où soudain, la chronique s'écrit en vous. Vous avez juste à recopier. Ça vous prend une heure. C'est le contraire des moments où vous n'avez pas de sujet, où vous ramez comme un malheureux, vous êtes obligé d'aller piocher dans les fonds de tiroir.
On connaît bien.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est ça.
Alors, Raphaël Antoven, on demande toujours à une fille si c'est plus dur de faire rire quand on est belle. Est-ce que c'est plus dur d'être philosophe crédible quand on est bel homme?
Ah, quelle bonne question. Je sais pas. Si j'étais bel homme, je pourrais vous répondre.
Bah, comment, il se la pète? Comment il se la pète?
C'est un piège, qu'est-ce qu'on fait dans
cette
cas-là?
C'est comme une belle fille à qui on dit oh, t'es belle, elle fait, tu crois.
Vous vous posez combien de questions dans une journée, Raphaël Antoven?
Je ne sais pas. Je sais combien de réponses je pose, mais les questions, je ne sais pas.
Alors, on a parlé de plein de sujets tout à l'heure dont vous vous posez, sur lesquels vous vous posez des questions, dont celle dont parlait Ben H précédemment, le clitoris. Et vous vous posez une question, est-il une arme de guerre?
Oui.
Alors, parce que comme ce sont les hommes qui partent en guerre le plus souvent, hein, faudrait-il déjà qu'ils parviennent à trouver l'arme, non?
L'alarme à l'œil.
Alors, vous dites aussi, donc, pour Harvey Weinstein, dont on parlait tout à l'heure, valait-il mieux qu'il se fît prendre ou qu'il restât impuni? Alors, avant d'y répondre, y a-t-il un double sens dans la formulation se faire prendre ici?
Ah, j'y avais pas pensé.
C'est vrai?
D'ailleurs, impuni aussi, on pourrait jouer avec. Non, j'y avais pas pensé, c'est vrai.
D'accord. Alors, j'ai essayé de transposer à autre chose. Alors, moi, à chaque fois, l'épiphanie, il y a la galette des rois. Vous savez, j'adore ça.
Oui.
La tentation est énorme. Oui. Un peu comme si la galette me draguait en me disant mange-moi, je te dis. Et je ne sais jamais quoi faire. Donc, surtout qu'elle insiste avec sa petite paille feuilletée si craquante.
Là, alors, j'ai un conseil pour vous.
Alors, est-ce qu'il faut créer le hashtag balance ta part ou pas?
Non, mais il y a. Alors, pardon de faire le cuistre, mais il y a quand même une citation qui est merveilleuse d'Oscar Wilde qui dit: moi, je résiste à tout sauf à la tentation.
Ah, ouais.
Et ça, c'est pas mal, je trouve.
C'est vrai.
C'est une bonne façon de lutter contre la tentation, c'est de la combler. Après, elle disparaît.
Ça veut dire bouffe-la, ta galette.
Bah ouais, voilà. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais.
Je ne vois aucun intérêt à pas manger une galette dont on a envie, en fait.
Vrai,
voilà, c'est ça. Je comprends pas pourquoi les gens s'en privent. Vous savez, les gens qui se privent de galettes, c'est des gens qui croient qu'en fait, ils investissent, en fait. Ils croient qu'ils vont, il y aura plus ensuite. Mais c'est faux. La galette, c'est maintenant.
Non, c'est vrai. Moi, je vous rassure, je m'en prive pas.
Bon.
Bref, vous vous posez des questions, surtout Raphaël Antoven. Alors, je me demandais quelle est la première question que vous vous êtes posée en apprenant que vous seriez l'invité d'Anne Romanoff.
Ah.
Anne Romanoff, sérieux?
C'est la question. Non, la question que j'ai posée, c'est t'es sûr? T'es vraiment sûr? J'étais étonné d'être invité.
Ah ouais,
j'étais flatté d'être invité d'ailleurs, mais j'étais étonné d'être invité. Oui, je suis content d'être là.
Non, parce que je me suis dit, moi, ça m'aurait inspiré une question. Peut-on parler sérieusement avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux?
C'est même les seuls avec qui on puisse parler sérieusement. Les gens qui se prennent au sérieux, c'est très ennuyeux. Il faut se moquer d'eux. Les gens qui se prennent pas au sérieux sont les seuls gens vraiment rigoureux, quoi. C'est la première chose à faire, la première discipline, la première personne dont il faut se moquer, c'est soi-même.
C'est sûr. Nous, on fait que ça ici.
Voilà.
Merci, Raphaël Antoven.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Raphaël Antoven, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on démarre une histoire le lundi, poursuivie par l'invité du mardi. Donc c'est vous aujourd'hui. Elle a été démarrée hier par Anne-Claire Coudray. Vous avez un mot imposé, à tirer au sort dans son chapeau.
Pensée.
Donc c'est juste une phrase et vous allez écouter ce qu'a fait Anne-Claire Coudray.
Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle s'apprêtait à faire l'interview la plus difficile de sa vie. Et il s'était passé un choc électrique qu'elle ne s'expliquait pas.
C'était une histoire érotique, on a oublié de vous dire.
Alors, une pensée l'a saisie. Elle s'est dit, si je suis électrique, c'est que je suis mortel. Et que pour cette raison, je pense, donc je fuis.
Merci Raphaël Antoven d'être passé nous voir. On rappelle votre dernier livre, Nouvelle Morale Provisoire, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe.